Cette jeune femme, Léa Demani, 23 ans, fauchée par une voiture au bord d'une route, n'a pas été victime d'un accident. L'acte était volontaire. C'est le compagnon de la victime qui a dénoncé la conductrice, qui n'est autre que son ex-femme. Cette dernière aurait-elle agi seule, de son propre chef, aveuglée par la jalousie? Ou bien Léa aurait-elle été victime d'un plan machiavélique? Enquête signée Géraldine Doucier, Nathalie Verdier et Vincent Barral.
Et ce matin, nous vous parlons de 7 à 8, un mastodonte de la télévision française. Reportage, portrait, interview, événement, en fin de journée, le dimanche sur TF1. Là, à peu près là où Anne Sinclair dépliait son 7 sur 7 quand on était gosse. 7 à 8 se regarde comme on lit Paris Match. Le poids des mots, la force de l'image, entre sujets plaisir, people, faits divers et grands tourments de nos sociétés. Une affaire qui roule depuis plus de 20 ans quand soudain, son présentateur, Harry Roselmack, poste sur les réseaux sociaux une courbe d'audience de ces infographies que Médiamétrie réserve habituellement aux professionnels du petit écran. Et voilà le journaliste soucieux de partager le sentiment qu'il étreint au lendemain d'une diffusion. Dès que 7 à 8 propose un sujet positif, eh bien figurez-vous, les téléspectateurs décrochent. Ils veulent du drame, manifestement, et pas de l'optimisme. Alors, à qui la faute? À nos bas instincts? À nos besoins cathartiques du dimanche soir? Ou aux médias télé lui-même, qui usent des mêmes recettes depuis toujours et s'étonnent aujourd'hui d'avoir tout simplement le public qu'ils méritent?
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Bonjour Harry Roselmack.
Bonjour.
Et c'est un plaisir de décortiquer avec vous les recettes d'un magazine à succès, hein, puisque vraiment cette recette, elle a fait ses preuves depuis plus de 20 ans, même si elle a évolué au fur et à mesure. Et je trouve ça vraiment intéressant d'attraper un journaliste vraiment dans son exercice pour en voir avec lui les tenants, les aboutissants, les leviers que vous utilisez. Avant de venir, je voudrais vous faire réagir sur l'actu télé de la semaine, Harry Roselmack. Je voudrais vous faire écouter un extrait du documentaire d'Aurélia Perrault et Alain Mabankou qui a été diffusé sur France 2 mardi soir, Noir en France, et qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Vous allez entendre le témoignage d'une femme qui s'appelle Laetitia Elouette.
Que je connais.
Que vous connaissez?
Oui.
Voilà. Et elle travaille à la Cour du Compte.
Je m'appelle Laetitia Elouette, et donc Laetitia Elouette, quand on a mon nom en fait pour annoncer une réunion à laquelle j'ai participé, il y a rien, voilà, je m'appelle pas Aminata, pas de dans le nom de famille, il y a pas du tout de lien avec la diversité. Et ce qui est intéressant, c'est quand on me voit arriver avec ma collaboratrice, qui est une femme blonde, et c'est elle qu'on appelle Laetitia Elouette, parce que évidemment, si on arrive et que l'une des deux est directrice générale, c'est pas moi. C'est forcément Nathalie qui est blonde aux yeux bleus.
Voilà, un témoignage parmi d'autres, puisque la force de ce doc, c'était de croiser des témoignages de gens plus ou moins connus, y compris des quidams, des Français, comme il en existe partout, sur tout notre territoire, de tous les âges et de toutes les classes sociales. Vous en avez pensé?
Si ce n'est qu'ils sont noirs.
Si ce n'est qu'ils sont noirs, absolument. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film et de son parti pris?
Je trouve que ce film, il a un vrai intérêt. Alors, pas tant pour moi, qui n'ait pas appris grand-chose, qui connaissent cette réalité-là, mais pour tous les autres. Je crois que c'est la grande vertu de ce genre de documentaire sur une chaîne comme France 2 en prime, c'est que ça permet aux autres de s'approprier un peu de la réalité de ce qu'ils ne sont pas. Et moi, j'ai envie de dire, mon travail à moi, c'est de m'approprier la réalité que je ne vis pas, qui est celle de quelqu'un qui est différent de moi. Donc oui, moi je suis à 100% pour ce genre de film.
Ouais. Ça a suscité un débat. Est-ce que ce film devait être plus militant, plus polémique, plus dans le reflet des colères de notre époque au sujet du racisme ou de l'antiracisme? Et ça m'a fait penser à une tribune que vous aviez publiée assez récemment, Harry Roselmack, dans laquelle vous racontiez votre expérience en tant qu'animateur radio dans une radio afro-antillaise. Vous avez passé 6 ans à vos débuts de journaliste, et où vous dites ce que c'est que d'être pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire on reçoit des attaques, mais on peut être parfois critiqué ou attaqué parce qu'on ne sait pas répondre aux attaques et qu'on n'attaque pas forcément ceux qui nous attaquent.
Pour répondre à votre question, on est dans une période de grande colère, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, et c'est vrai que dans ces états d'esprit-là, le réflexe, c'est d'attaquer.
Ouais.
Je pense qu'on a besoin d'apaisement. Et je pense qu'un documentaire comme celui qui a été diffusé jeudi...
Mardi, pardon. Ouais.
C'est un documentaire qui a tout son intérêt parce que justement, il n'est pas dans la colère. Il est dans le constat et il est dans le partage d'un constat. Et moi, c'est plutôt ma façon d'aborder ce genre de questions. C'est de l'aborder toujours en tendant la main à l'autre, en lien avec l'autre. Parce qu'il n'y a que comme ça, si moi... En tant que noir, je me mets à accuser et à attaquer le blanc parce qu'effectivement, il y a des choses qui ont été faites, qui doivent être posées sur la table. Mais pour que l'autre reconnaisse son rôle dans cette histoire, il ne faut pas que je l'attaque. Il faut que je l'emmène avec moi, que je lui montre les conséquences de ce qu'il y a eu dans le passé et qui affecte encore, qui m'affecte moi, qui affecte mes enfants, qui affecte les gens comme Laetitia.
Alors on va en venir à 7 à 8 et on va en venir à la façon dont justement vous aussi vous construisez ces moments de télévision dont vous allez chercher la main de vos téléspectateurs chaque dimanche en fin de journée. Je vous fais écouter l'extrait de l'interview d'Alexandre Jolien et puis on en parle ensemble. Alexandre Jolien, c'est un homme qui est assez lourdement handicapé, qui est devenu philosophe, qui aujourd'hui partage l'affiche au cinéma avec le comédien Bernard Campan.
Moi je suis, grâce aux autres, parvenu à m'échapper à quelques déterminismes, mais je parle surtout à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Et plus que tout, c'est une invitation à la solidarité, ne pas laisser personne sur la touche.
Mais c'est pas qu'une chance, vous l'avez provoqué aussi, cette solidarité.
Je crois que le tragique de l'existence m'a fait prendre conscience que c'était soit philosopher, soit crever, j'allais dire.
C'est au lendemain de la diffusion de ce sujet, Harry Roselmack, que vous postez sur les réseaux sociaux, une fois n'est pas coutume, car vous êtes assez discret, une courbe d'audience en disant « Regardez, oui, ça descend à ce moment-là. Regardez la réalité de la télévision aujourd'hui, ça descend. »
Alors, la nuance que je ferais, c'est que il faut se garder de tirer des conclusions et pire encore de généraliser. Je n'ai jamais écrit que dès qu'on met des sujets positifs, ça ne marche pas. Et quand on met des sujets un peu durs, un peu, avec une force dramatique, ça marche. Je ne dis pas ça. Je ne tire pas de conclusion. Je dis que sur cette courbe, et ça je le fais parce que malgré tout, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. J'ai des réseaux sociaux et les réseaux sociaux, ça invite à partager de l'émotion sur le moment et de façon extrêmement pulsionnelle. Donc je dis, regardez cette courbe. Et cette courbe, elle baisse très fort au moment d'Alexandre Jolien, alors qu'il a quelque chose d'exceptionnel à nous partager. Il a quelque chose d'atypique et de très fort qui peut tous nous aider. Mais quand je fais ça, je m'en veux aussi un peu à moi, parce que mon rôle, TF1, l'ADN de l'info à TF1, c'est la proximité. C'est de rapprocher ce qu'on va proposer des gens qui vont regarder. Et quelque part, c'est que moi, en tant que présentateur qui fait des lancements, j'ai pas bien fait mon boulot. Parce que si les gens ne se sont pas sentis, en tout cas si beaucoup de gens, même s'il y a plus de 4 millions de personnes qui ont regardé ce portrait, il faut relativiser.
On parle de tout ça en toute sérénité, parce que comme je l'ai dit, c'est un mastodonte de la télévision française. Et donc, quand il y a une chute d'audience,
la courbe est un peu spectaculaire. Ouais. Et elle me fait réagir, mais en vrai, le constat, il n'est pas dramatique.
Non, pas du tout. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler.
Néanmoins, je me dis, moi, je m'en veux, parce que si les gens ne sont pas venus voir Alexandre Jolien aussi nombreux que le sujet d'avant, qui est un dossier très fort sur Maëlys, c'est que quelque part, j'ai pas su leur faire voir l'intérêt qu'il y avait pour eux, la proximité qu'il y avait entre eux et Alexandre Jolien à ce moment-là et ce qu'il avait à nous partager.
Je vous fais écouter un extrait, justement, du long sujet que vous avez consacré à l'affaire Maëlys, qui est une petite fille qui avait disparu en pleine nuit lors d'un mariage en 2017.
Elle est venue me voir, puis je lui ai demandé si elle voulait goûter du dessert. C'était une pièce montée, je crois. Il y avait des choux, donc je lui ai demandé si elle voulait goûter. Elle m'a dit oui. Donc elle s'est assise sur moi. Puis je lui ai fait goûter dans mon assiette. Et puis elle n'a pas trop aimé. Je lui ai dit t'aimes pas. Elle me dit non. Puis elle est repartie. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Si j'avais su, j'aurais bien gardé contre moi. C'est dur de se dire que c'est la dernière fois qu'on voit. Si on savait, c'est la dernière fois qu'on voit notre enfant.
Et vous l'avez compris, c'est donc la maman de Maëlys qui témoigne dans 7 à 8. Sincèrement, qu'est-ce qu'on peut entendre après ça?
Écoutez, comme je le disais, c'est très compliqué. Parfois, on comprend pas pourquoi il y a des sujets qui marchent et des sujets qui ne marchent pas. Et là, en l'occurrence, Alexandre Jolien, on n'a aucun élément. On l'avait fait en 2011, il y a plus de 10 ans, ça avait bien marché. Notre record d'audience sur le portrait de la semaine l'année d'avant, c'était un témoignage qui avait des similitudes, puisque c'est alors c'est quelqu'un d'éminemment plus connu, c'est Mimi Mati, mais qui nous parlait de sa différence et de comment, malgré sa différence, elle avait su s'imposer et devenir la comédienne l'une des comédiennes préférées des Français. Donc, quand on met ça bout à bout, on comprend pas pourquoi Jolien ça marche pas cette fois. Mais là où vous avez sans doute raison, et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que effectivement, derrière ce document Maëlys, c'était très compliqué de demander peut-être encore l'effort d'aller vers quelqu'un qui a quelque chose d'important à nous dire, mais il faut aussi aller vers cette personne. Et je pense, on pense aujourd'hui que c'est effectivement cela.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même
la difficulté de cet avis, de savoir quel sujet mettre après tel autre sujet.
Bah bien sûr,
ça fait partie de la mayonnaise.
Bien sûr, ça fait partie de la mayonnaise, mais surtout, c'est une mayonnaise qui est quand même fortement empreinte, c'est à 8, d'empathie, de mélo, de moments, de témoignages très très forts. C'est dans l'ADN de l'émission. C'est-à-dire, si vous faites.
Mais pourquoi mélo? Ça veut dire quoi mélo?
Mélo, c'est pas forcément critique.
Les grandes tragédies qui marquent les Français et qui sont des tragédies d'actualité, c'est effectivement, ça fait effectivement partie de l'ADN de 7 à 8 de les traiter et de les traiter comme on traite tous les autres sujets, avec un maximum d'incarnation, donc en ayant les acteurs et les gens les plus proches possibles de ce qui s'est passé, et en leur donnant la parole. Et ça, on le fait pour tous les sujets, on le fait pas que pour les sujets de cet ordre-là.
Mais est-ce que vous avez par exemple testé quels sont les sujets qui sont restés dans la rétine des Français? Quels sont les sujets qui sont restés dans la mémoire de votre public? Est-ce que cet A8 n'est pas profondément marqué par les témoignages durs, par quelque chose où on entre en empathie avec les victimes, les drames, par les larmes, par les chocs, par le courage, par les faits divers, par tous ces sujets qui marquent profondément l'opinion?
Évidemment. Alors, on a la prétention de savoir, et moi je suis limite content quand on se trompe, parce que c'est pas bien de se dire, on sait ce qui marche et ce qui marche pas, mais on a quand même, au bout de 20 ans de magazine, on sait qu'il y a des sujets qui intéressent plus les Français, qui sont des sujets qui sont proches de leur quotidien, les sujets consommation, les sujets sur le pouvoir d'achat, les sujets sur tout ce qui concerne au premier plan les Français, ça marche très fort. Et les grands faits divers, les grandes tragédies qui nous interpellent tous, évidemment, ça marche fort. Mais notre devoir, et c'est un pouvoir que l'on a, nous, alors les radios, les télés, les journaux, et que n'a pas Internet, c'est qu'on est quand même une force de proposition. On est une force d'ouverture. C'est que nous, nos téléspectateurs, ils nous font assez confiance pour nous suivre sur des sujets où on va leur montrer les insurgés de Birmanie, où on va aller montrer comment fonctionne la police à Pékin, où on va faire des sujets en Syrie. Et ça, c'est la grande force quand même de ce magazine. Et notre devoir, c'est aussi d'aller sur ces terrains-là. Donc,
D'être
c'est
une
un savant mélange
pas,
des deux.
Et pas que de demandes.
Pour ouvrir, exactement.
Ouais. Vous avez très récemment, au mois de décembre, interviewé une mère de famille youtubeuse qui se mettait en scène. Bon, il se trouve qu'elle s'est suicidée 15 jours après que vos caméras, et ça n'a rien à voir, elle racontait le drame de son harcèlement. Vos caméras l'ont rencontrée, l'ont filmée, l'ont longuement interviewée, et elle est morte 15 jours après.
Tu es un monstre. Comment des personnes comme toi peuvent faire des enfants? Tu donnes la gerbe et j'espère que les petits resteront à tout jamais chez leur papa. Naïva, tu es qu'une putain de pourriture. J'espère que tu vas payer, ma pauvre. Tu me dégoûtes au plus bas, espèce de cinglée de merde. C'est une vague et c'est incontrôlable et c'est finalement indélébile.
C'est-à-dire?
Internet, c'est indélébile. Ça s'effacera pas, ces commentaires. C'est-à-dire, quand on tapera mon nom d'influenceuse ou mon nom tout court, finalement, on pourra toujours retrouver ça.
Voilà. Et cette femme s'est donné la mort très, très, très peu de temps après que vous l'ayez rencontrée. Il y a en ce moment quelque chose d'assez inattendu. Il y a un succès incroyable des émissions de témoignages. Je pense à Faustine Bollaert sur France 2, par exemple, mais pas seulement. Et on se rend compte que tous les témoignages diffusés à la télévision ont une seconde vie sur les réseaux sociaux. Et que les réseaux sociaux adore les témoignages, au point que sur TikTok, aujourd'hui, des gamins ressortent des extraits de Bataille et Fontaine sur TF1. Les témoignages sur le web, ça cartonne.
Oui, parce que c'est du partage d'expérience. On est dans un moment, et la crise sanitaire l'a encore montré, où l'expertise est très contestée. C'est-à-dire que aujourd'hui, on donne plus de crédit à quelqu'un qui raconte son quotidien, que ce soit son drame ou ses succès, qu'à un expert qui va venir nous expliquer telle ou telle situation. Mmh. Et c'est vrai que ce traitement au plus près des gens et de ce qu'ils vivent, on n'a pas attendu ça. C'est quand 7 à 8 a été créé en 2000, c'était la charte de 7 à 8. C'était de montrer la vie des gens et de leur permettre de témoigner, mais pour en sortir quelque chose de plus global. Quand on va voir cette jeune femme pour un sujet qu'on avait prévu de diffuser avant qu'elle ne mette fin à ses jours, c'était pour parler de ces vlogs famille, qui sont des blogs vidéo où les familles se mettent en scène, où on montre parfois allègrement les enfants, où on montre parfois, et c'était le cas de cette jeune femme, sa vie de couple. Cette personne a exposé sur les réseaux sa rupture avec son compagnon, et ça a été le détonateur d'une vague de haine en ligne incroyable à laquelle elle n'a pas survécu, malheureusement. Mais quand on part sur ce sujet, on y va pour traiter le phénomène de fond. Mais c'est vrai que ça passe chez nous par du témoignage.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est vrai que la mort de cette jeune femme nous a fait réécrire le sujet de façon un peu
évidemment
différente.
Évidemment. Et quand je vous disais mélo, vous prenez mal le fait que je vous dise mélo.
Oui, mais parce que je vois bien
non,
ce que justement, ça peut...
Et ben justement, alors quelle est la différence ou quelle est la ligne, quelle est la frontière entre le mélo et le racolage? Voilà.
Alors,
qu'est-ce qui est mélo, qu'est-ce qui est racoleur? Quand je parle de mélo, moi je vois bien qu'il y a quand même toute une grammaire à 7 à 8. Il y a quand même toute une narration avec de la musique,
ouais,
une façon d'accompagner et de faire entrer en empathie, comme vous le disiez.
Alors, j'entends ce que vous dites.
C'est un grand
moi,
genre
je pense qu'on
n'abuse
pas. Parce que justement,
mélo.
Pour moi, le mélodrame, c'est de la fiction.
Ouais,
on n'est pas dans la fiction.
Ouais, d'accord.
On est dans la réalité. Mmh. Il y a de vrais gens qui souffrent ou qui réussissent et qui sont heureux de partager ce qu'ils vivent. Donc, alors, certes, oui, on utilise parfois des musiques, mais j'ai pas l'impression qu'on en abuse. Mmh. Évidemment, on fait de la télé, vous faites de la radio, il y a une question de forme.
Ouais.
On va pas proposer des choses n'importe comment. Donc oui, il y a une question de forme. Néanmoins, je pense qu'on respecte la réalité des gens qu'on va tourner et que ce qui est important pour nous, c'est effectivement que cette réalité-là, elle soit perçue de façon juste. Alors ouais, il y a un peu de forme, mais je pense pas qu'on puisse parler de mélo parce qu'on n'écrit rien, on n'invente rien et on n'exagère rien.
Je voulais vous poser une dernière question sur la présence des politiques dans 7 à 8, parce qu'en fait, ils sont très rares. On peut avoir une interview événement d'Edouard Philippe qui annonce d'un côté son soutien à Macron et en même temps qui raconte ses pires moments passés à Matignon. Donc là, on est vraiment dans du 7 à 8 où c'est vraiment quelque chose d'intime. Il se livre en tant qu'homme et pas seulement que... Voilà. Et en même temps, il y a plein de sujets qui ont une forte teneur politique. Quand vous parlez du djihad, quand vous parlez de la situation dans les prisons, il y a des enjeux politiques derrière énormes. Mais les politiques, la politique politicienne, on est dimanche, il n'y a pas.
Non, il n'y a pas pour plein de raisons. D'abord parce qu'effectivement, ce n'est pas notre parti pris. Dimanche, on a un sujet sur le pouvoir d'achat, avec la question des loyers impayés. On a un sujet sur la sécurité avec la police de nuit à Marseille.
Archipolitique, tout ça.
Tout ça est très politique, ce sont les thèmes
de
centraux de la campagne. Mais c'est vrai que les personnalités politiques, c'est pas notre truc. Et surtout, dans des moments de campagne où il y a des temps de parole, où ça devient pour nous une usine à gaz, c'est pas possible. C'est-à-dire, si vous faites parler l'un, il faut faire parler les 10 autres.
Ouais.
Donc pour nous, c'est extrêmement compliqué. Donc nous, on va pas sur ce terrain-là.
Merci beaucoup,
merci.
Harry Roselmack. Postez régulièrement vos réflexions sur votre métier, parce que nous,
oui,
ça nous intéresse. Et ça permet de partager tout ensemble.
J'essaie de prendre
ensemble
un maximum de recul, mais je vais continuer à le faire, je vous le promets.
Merci beaucoup, Harry Roselmack, d'avoir été l'invité de l'Instant M.